RFI. Grand reportage.
Ils ne sont pas encore diplômés et pourtant leur métier les épuise déjà, voire les tue. En France, les internes en médecine représentent 40% du personnel médical dans les hôpitaux. Mi-médecin, mi-étudiant, certains travaillent plus de 80 heures par semaine et surtout sont confrontés au quotidien à la violence du monde médical. Depuis le début de l'année, au moins 7 internes se sont suicidés, victimes de surmenage, de pression, harcèlement et d'absence d'accompagnement psychologique. En France, le grand épuisement des internes en médecine, c'est un grand reportage de Claire Leys.
Ils hurlent pour se faire entendre, mais en réalité, il suffit de les regarder pour comprendre. Dans le cortège, les internes ont les traits tirés, de grosses cernes sous les yeux et le teint aussi pâle que leur blouse. C'est simple, sans eux, les hôpitaux ne tourneraient pas. Ils sont plus de 30 000 à y travailler. En France, l'internat correspond au troisième cycle des études de médecine. Il débute 7 ans après le bac et dure entre 3 et 6 ans selon les spécialités. C'est une étape clé de la formation, le moment où les étudiants posent leurs bouquins pour aller en stage, se confronter à la réalité d'un métier, ou plutôt d'une vocation, soigner. Mais aujourd'hui, ils n'ausculteront aucun patient. Nous sommes en juin 2021 à Paris et ces étudiants venus de toute la France sont en grève. Leur unique revendication, ne travailler que 48 heures par semaine. C'est la durée maximale fixée par la loi, sauf qu'en pratique, selon l'intersyndicale nationale des internes, l'ISNI, les internes travaillent en moyenne 58 heures par semaine.
Si on demande aux travailleurs de ne pas travailler plus de 48 heures, c'est pour les protéger. Et c'est pour protéger, là en l'occurrence en médecine, les patients, c'est évident.
Gaëtan Casanova, le président de l'ISNI.
Moi, lorsque j'ai dû poser une péridurale à une patiente après 22 heures de travail, j'en avais la main tremblante parce que j'étais épuisé. J'ai raté ma péridurale, la patiente a été hospitalisée plus de temps encore, son enfant aurait pu mourir. Et c'était une erreur qui était de toute évidence due à l'épuisement professionnel. Il y a une omerta totale parce que votre hiérarchie, elle est double, elle est universitaire et hospitalière. Si vous avez le malheur de vous plaindre, eh bien évidemment il y aura des conséquences. Et là, depuis 2 jours, on constate que des chefs de service, des directions hospitalières font pression sur les internes en disant si jamais vous faites grève, il y aura des conséquences sévères sur votre cursus.
Élise, elle aussi travaillait trop, mais elle n'est pas là pour protester. C'est sa mère, Laurence Marbach, qui manifeste en son nom. Je la retrouve chez elle, à Saint-Maur-des-Fossés, près de Paris, quelques semaines plus tard. Dans la chambre d'Élise, un grand tableau blanc est accroché au-dessus du lit. Il ressemble à ceux qu'on trouve dans les salles de classe. On y découvre des notes incompréhensibles, des noms de molécules que seuls les étudiants en médecine sont capables de déchiffrer. Ce tableau, Laurence n'y a pas touché depuis plus de 2 ans. C'est un des souvenirs qui lui reste de sa fille. Élise s'est suicidée à 24 ans, quelques mois seulement après avoir commencé son internat. Et pourtant, elle avait la médecine chevillée au corps. Au concours qui précède l'internat, Élise est arrivée dans les 200 premiers, sur 9500 candidats. Son classement lui a permis de choisir sa spécialité.
Et elle a choisi l'hépato-gastro-entérologie. Elle disait elle-même, je sais, c'est pas très sexy, mais c'est très intéressant. Elle a fait un premier stage de 6 mois dans un service très dur, sur le plan de la patientèle, hein. Des cancers, un taux de mortalité important, des difficultés à gérer les chimiothérapies. C'était aussi un service extrêmement bienveillant, mais Élise, qui était très perfectionniste, travaillait énormément. Et sur la base des documents qu'on a retrouvés, on pense qu'elle travaillait de l'ordre de 80 heures par semaine, plus les astreintes, parce qu'il y avait des astreintes de week-end, et puis elle avait régulièrement des gardes. Moi, je l'avais alertée sur le fait qu'elle travaillait trop, que c'était pas raisonnable. Moi, je suis DRH, donc les questions de risques psychosociaux, je les connais bien. Bien entendu, on n'écoute jamais ses parents. On est parti en vacances avec elle, on a fait du ski. Elle disait « je fais le plus beau métier du monde ». C'était comme un papillon qui sort de sa chrysalide. Elle était extrêmement heureuse. Et 2 mois après, elle était morte. Ce qui s'est passé, c'est qu'elle a enchaîné des temps de travail excessifs, avec des gardes qui ont été difficiles. Elle a eu une garde où il y avait un patient mourant. Elle a appelé la réanimation, ils lui ont dit « on n'a pas le temps, tu te débrouilles ». Et elle s'est débrouillée toute seule. Elle était interne de premier semestre. Ça a été un stress terrible pour elle. 15 jours après, elle a une autre garde. Même chose, le patient est décédé et derrière, zéro débrief, quoi. Donc là, je pense qu'il y a eu, sur ces deux gardes successifs, un vrai stress qui n'a pas été compris, débriefé, parce qu'en fait, l'hôpital n'est pas organisé pour. Voilà, c'est parfaitement normal. Et puis, il y a eu une fête de fin de stage. Moi, j'ai des images où je la vois danser, chanter avec ses collègues. Et là, elle s'est mise à pleurer, elle s'est écroulée, elle a fait une espèce de crise d'angoisse. Elle est partie en courant, elle est rentrée chez elle. Et on l'a retrouvée morte. Elle a pris des bêta-bloquants. Et elle est morte d'un surdosage de bêta-bloquants. Elle s'était prescrit, auto-prescrit ces bêta-bloquants pour lutter contre les effets du stress 15 jours plus tôt. Voilà l'histoire d'Élise. Donc la médecine a perdu, je pense, un excellent médecin, probablement. Et c'est un énorme gâchis, parce que si les conditions de prévention des risques psychosociaux avaient été en place, elle ne serait pas morte, elle serait là aujourd'hui.
La santé mentale des internes, Laurence Marbach en a fait son combat. Un an après le décès de leur fille, Laurence et son mari ont ressenti le besoin d'agir. Ils ont créé une association, l'IPSEM, la Ligue pour la santé des étudiants et internes en médecine. À chaque rentrée universitaire, le couple sillonne la France à la rencontre des futurs internes, pour les prévenir des risques d'épuisement, pour leur dire aussi qu'ils ont le droit de demander de l'aide quand ça ne va pas. Mais dans la sphère médicale, on préfère soigner qu'être soigné, parce qu'un bon médecin, ça ne flanche pas. Cette idée, Amélie, interne en médecine générale dans la région Occitanie, l'entend souvent. Alors elle encaisse, travaille jusqu'à 92 heures par semaine et enchaîne les gardes aux urgences, jusqu'à celle de trop.
J'arrivais au bout de tout ce que je pouvais donner. Je me suis retrouvée à devoir partir à une nouvelle garde de 24 heures sur la route et à pleurer en pensant au fait que j'allais devoir rester debout à travailler 24 heures alors que j'étais déjà dans un état d'épuisement complet. À un moment, ça m'a traversé l'esprit de me provoquer un accident de voiture. Comme ça, j'aurais la possibilité d'arrêter ça. On avait une pression énorme pour ne pas poser d'arrêt maladie, puisqu'on n'était pas assez d'internes pour pouvoir se faire remplacer. Il était hors de question de s'arrêter. Et là, je me suis dit, en fait, il faut que j'arrête ces études. Même si j'ai eu le premier concours et que j'ai fait tous les autres concours, etc., et que c'était difficile... Ça en vaut pas la peine, en fait. Là, il faut que je sauve ma peau, il faut que j'arrête.
Au-delà de la surcharge de travail, si Amélie a dû dire stop, c'est à cause de l'atmosphère délétère qui régnait à l'hôpital. Comme beaucoup d'internes, pendant son stage, elle s'est sentie malmenée, rabaissée par ses chefs.
Une remarque qui m'a choquée, c'était vraiment au tout début, lorsque j'ai demandé de l'aide pour l'examen d'un enfant, et qu'on m'a dit, comment tu vas faire quand tu seras toute seule, quoi ? Faut que t'arrêtes de venir me demander des choses. Je me suis retrouvée à... dire que c'était moi qui avais un problème de devoir demander de l'aide à un médecin senior alors que j'étais interne depuis un mois. C'est insidieux, c'est-à-dire qu'on va proposer des diagnostics ou proposer des choses à faire et puis le médecin va nous regarder, lever les yeux au ciel, souffler en sous-entendant qu'on est stupide. On est dans une atmosphère humiliante en fait, où on est vraiment traité comme quelqu'un de mauvais, de nul. Ça devient insupportable.
À cela s'ajoute la problématique du sexisme et des violences sexuelles. Selon une enquête de l'Association nationale des étudiants en médecine de France, un tiers des étudiants en médecine auraient déjà été victimes de harcèlement, sexiste ou sexuel, et 15% déclarent avoir subi une agression sexuelle.
Ça fait partie un petit peu de tout ce qu'on appelle l'esprit carabin. C'est dans la culture, soi-disant, de dire des choses sexistes, d'humilier. Moi, je me souviens qu'au début de mon stage... on nous a prévenus, on n'était que des internes femmes. L'un des médecins avec qui on serait en garde, faisait du harcèlement sexuel, mais on nous l'a dit d'une façon comme une blague, quoi. Et c'était, tout le monde rigolait, c'était bien connu. C'est des choses où on nous dit « Ah, mais c'est à vous, il faut que vous fassiez quelque chose, que vous portiez plainte. » Mais en pratique, c'est très compliqué quand on est l'interne de pouvoir agir contre ça. Quand on voit qu'en plus, tous les chefs de service sont tout à fait au courant de ça, qui perdure depuis des années. Je me souviens d'une fois où j'ai voulu parler, en fait, de certains problèmes que je voyais en stage. Et on m'a pris à part. On m'a dit, on dit que c'est l'omerta à l'hôpital. Ben oui, c'est l'omerta. Donc tu parles pas. Il y a vraiment une espèce de loi du silence comme ça, parce que si jamais tu parles, alors là, tu vas être exclu du groupe, tu n'auras pas de poste, et puis il y a vraiment cette idée, quoi.
Malgré toutes ces difficultés, Amélie a finalement continué ses études de médecine. Aujourd'hui, elle va mieux, mais elle reste amère, car des parcours cabossés comme le sien, il en existe des centaines. Amélie en veut au système hospitalier, qui en demande beaucoup trop aux internes. Évidemment, la pandémie de Covid-19 a accentué ce problème. Louise est interne en médecine générale à Paris. Je la rencontre chez ses parents, à Montreuil, en Seine-Saint-Denis. Pour eux, le sujet est encore douloureux. Les études de médecine ont abîmé leur fille. Juste avant que j'arrive, Louise a reçu une photo sur son portable, envoyée par sa mère.
C'est moi qui ai, je pense, 4-5 ans et qui suis devant une copine à moi, allongée sur le lit. Moi, je porte un stéthoscope avec un petit t-shirt blanc. Je ressemble à un petit médecin de 4 ans.
Louise est en arrêt maladie longue durée pour burn-out et dépression. En novembre 2020, elle entame un stage dans un hôpital réputé de la capitale au sein du service de maladies infectieuses.
Quand on arrive dans un stage, on n'est pas forcément complètement hyper calé dans la matière. C'était beaucoup de pression avec une équipe très bienveillante. C'est ça qui était un grand paradoxe aussi, c'est que c'était des gens qui donnaient vraiment énormément de leur temps, de leur énergie pour que les dossiers des patients soient carrés parce que c'est des cas très très lourds. Il y avait aussi un étage Covid où c'était des gens qui n'étaient pas dans les critères de réanimation, soit trop âgés, soit trop de comorbidité, mais qui avaient des Covid très graves et qu'on regardait partir doucement parce qu'on ne pouvait rien faire d'autre, qui n'étaient pas dans des services de soins palliatifs parce qu'il n'y avait pas de place, parce que ce n'était pas possible, et qui du coup sont décédés dans des conditions dures. Et en tant qu'interne, on doit appeler la famille, on doit gérer ça la nuit. Si ça se passe la nuit, on est tout seul. Ma première garde, ça a été un enfer. J'ai pleuré toute la nuit, à part quand je voyais les patients. Pendant plusieurs semaines, j'ai arrêté de manger en fait, progressivement. Je ne dormais plus. En arrivant au stage, je regardais les rails et je sentais que ça n'était pas normal que je les regarde comme ça. J'ai fait 80 heures la première semaine. Mais en même temps, c'est parce que les choses sont bien faites à cet endroit-là pour les patients. Et c'est ça qui est compliqué, c'est qu'ils mettent une pression pour les patients et donc tout le monde bosse énormément. C'est un tourbillon. J'ai eu beaucoup de mal à m'arrêter, en fait. Moi, je ne voulais pas m'arrêter. C'était une angoisse totale. J'ai mis au moins 2-3 semaines avant d'arrêter de culpabiliser, d'avoir donné de la charge de travail en plus à mes collègues. C'était hyper dur. Et c'est un milieu où il y a beaucoup de pression pour faire bonne figure. Il y a beaucoup de bluff. Moi, j'ai eu la chance de réussir à dire les choses, que ça n'allait pas du tout, du tout. Donc, j'ai reçu du soutien. J'ai été orientée pour voir la psychologue du service. Le problème, c'est qu'en fait, c'était trop tard. J'étais déjà dans le noir, donc il fallait que ça s'arrête. Si j'avais fait médecine d'une traite, je pense que je serais plus vivante, ça c'est sûr.
Les représentants des étudiants en médecine alertent depuis de nombreuses années sur la dégradation de la santé mentale des internes. En 2017 déjà, l'ISNI, l'intersyndicale nationale des internes, avait publié une enquête pour mettre des chiffres sur cette réalité. En octobre prochain, ils dévoileront une nouvelle étude scientifique basée sur un questionnaire envoyé aux étudiants. Sur les 11 000 répondants, 67% déclarent être en burn-out.
On va commencer, t'es là Fred ? Toujours ?
Dans leur petit bureau, les membres de l'ISNI discutent des modalités de diffusion de cette nouvelle enquête. Ils veulent à tout prix que les autorités s'en emparent, les directeurs d'hôpitaux, d'universités, mais aussi les responsables politiques.
Franck Roland, je suis vice-président en charge de la qualité de vie et des risques psychosociaux à l'ISNI. Vous me demandiez en termes de comment on voit cette dégradation de la santé mentale, et bien par exemple sur le plan de l'anxiété. Avant, il y avait 2 étudiants sur 3, là on est plutôt à 3 étudiants sur 4. Qui exprime des signes d'anxiété. Sur le plan de la dépression, on était sur 1 étudiant sur 3 et on passe maintenant à 40%. La première des choses, c'est d'arrêter de penser il y a des étudiants qui sont fragiles et il y a des étudiants qui ne sont pas fragiles. Parce que ça, c'est un discours qu'on retrouve partout. Quand il y a un suicide, tout de suite, on se focalise sur les fragilités de l'étudiant qui explique le suicide. Alors certes, un suicide, ça a plusieurs explications. Il n'y a pas qu'une cause unique pour expliquer un suicide. Mais il y a des causes sur lesquelles c'est pas éthique de ne pas agir. Le temps de travail, la formation des enseignants à l'encadrement, à la pédagogie. Aussi d'avoir un peu cette philosophie que les études de médecine, c'est des études qui sont compliquées, qui peuvent bouleverser à un moment donné. Et donc, c'est quel accompagnement on fait de ça? Quel débrief on fait de certaines situations? Tout ce genre de questions, c'est une culture qui doit changer.
De l'écoute, un accompagnement, c'est ce qui a manqué à Mélanie. Passionnée par la médecine, elle a tout arrêté un an avant d'obtenir son diplôme. Une décision prise après des années de solitude.
J'ai fait les urgences du CHU en premier semestre. Normalement, on est censé être validé par un chef à chaque fois qu'on s'occupe d'un patient. À chaque fois. Sauf qu'en réalité, c'est pas du tout ça. Ils sont surchargés. Attention, c'est pas la faute des chefs. Hein, c'est le système qui fait que. Au bout de 2 semaines, j'étais complètement autonome aux urgences. Pas pour les urgences vitales, mais tout le reste, j'ai compris qu'il fallait que je me débrouille toute seule, en fait. Donc j'ai fait 2 ans comme ça. Après, je suis passée pour mon stage en libéral, qui est censé être un peu plus light, puisqu'on bosse que 3 jours par semaine plus une journée de cours. Il n'y a pas de garde. Et en fait, j'ai complètement décompensé. L'épuisement que j'avais accumulé durant toutes ces années, et surtout dans les 2 premières années d'internat, je suis tombée en fait. J'arrivais plus du tout à aller en stage, à me lever rien que pour aller faire mes courses. C'était horrible. Sauf que j'étais dans le déni au début, parce que de pas pouvoir aller au travail, c'est horrible en fait. J'avais vraiment honte de ce qui se passait. Je mentais même à mon compagnon en disant que j'étais allée au boulot, alors qu'en fait j'avais éteint mon portable toute la journée, j'avais prévenu personne. J'allais vraiment pas bien en fait. Depuis le début de l'internat, je cherchais à aller voir des psys, et il y a aucun soutien en fait, il y a aucun soutien. Les chefs, j'arrivais pas trop à leur parler parce que tout va vite et donc j'avais besoin d'un soutien externe.
Mesdames, messieurs, dans quelques instants, notre TGV inouï.
Alors maintenant, il faut tenter de trouver des solutions à ce mal-être généralisé. Dans la ville de Tours, le président de la conférence des doyens de médecine s'active. En mai dernier, Patrice Diou a rédigé un plan d'action pour améliorer la santé mentale des internes, un texte signé par les ministres de l'Enseignement supérieur et de la Santé.
Les représentants des étudiants, en particulier les représentants des internes, nous alertaient depuis un moment déjà sur ce sujet. On n'avait sans doute pas répondu à la hauteur de leurs attentes. J'ai pris mes fonctions de président de la conférence des doyens et j'ai fait de ce sujet l'un des sujets de préoccupation majeure de ma présidence. C'est une approche globale du sujet qui d'ailleurs remet en cause finalement des comportements, des espèces de traditions qui ont perduré au cours du temps. Le modèle de formation date du 19e siècle, il ne faut pas l'oublier. Il y a des choses qui n'ont pas évolué par rapport à il y a 2 siècles. C'est ça le sujet, hein. C'est de faire évoluer la formation médicale et les usages et les comportements. D'abord, le monde médical, et le monde hospitalier en particulier, est un monde très dur, dans lequel les relations interhumaines sont très dures. Parfois, on oublie les questions de bienveillance qu'on apporte du mieux possible aux personnes qui nous confient leur santé, mais qu'on n'applique pas dans les relations interhumaines entre professionnels. Peut-être qu'on n'a pas suffisamment sensibilisé dans la formation des formateurs les enseignants d'aujourd'hui à ces questions de risques psychosociaux qui se sont accentuées au fil du temps. Et j'ai écrit au début de l'été, après la signature du plan de prévention pour les risques psychosociaux, à l'ensemble des responsables de formation de formateurs sur la nécessité de mettre en place un module spécifique bienveillance à l'égard des étudiants et bonne conduite dans la relation avec les étudiants. Cette évolution de la formation des futurs enseignants sera adaptée dès cette rentrée 2021.
Le plan d'action prévoit aussi de sanctionner les professionnels qui dépassent les limites avec les internes. Désormais, en cas de maltraitance, les chefs peuvent perdre leur agrément de terrain de stage et donc se retrouver sans interne au sein de leur service.
Dans ma subdivision à Tours, 2 terrains de stage ont été suspendus après que des remontées nous aient été faites de dysfonctionnement. C'est à titre conservatoire jusqu'à ce qu'on ait bien compris ce qui se passe, mais du moment où nous sommes saisis par des étudiants de difficultés, nous instruisons la situation, quitte à remettre l'agrément dans les temps qui suivent. Donc c'est un partenariat renforcé finalement entre la communauté étudiante et les facultés de médecine.
Dans les facultés, les dispositifs d'écoute se multiplient pour les étudiants. À l'hôpital Saint-Antoine, à Paris, Alice Polomeni, psychologue clinicienne, reçoit dans son bureau les étudiants en difficulté. Elle est tutrice au BIPE, la cellule bien-être et parole étudiante de Sorbonne Université. Mais selon elle, tant que l'hôpital public sera malade, les étudiants le seront aussi.
On peut se trouver en tant que soignant dans une espèce de paradoxe impossible à résoudre. C'est-à-dire qu'il faut faire plus avec moins. Et il y a quelques mois, avant toute cette crise du Covid, on a eu des chefs de service qui ont décliné de leur fonction de chef de service parce qu'ils considéraient qu'ils n'étaient plus en mesure d'assurer la qualité des soins à leurs patients. Et ça, c'est quelque chose à entendre. Et on ne peut pas parler de la souffrance des internes sans prendre en compte cette réalité qui est une réalité des moyens qui sont accordés à l'hôpital pour que la prise en charge des patients soit une prise en charge de qualité.
Les représentants des internes plaident eux aussi pour une réorganisation en profondeur de l'hôpital public. Ils comptent faire de ce sujet un enjeu de la prochaine élection présidentielle en 2022, car tous en sont persuadés, des vies en dépendent, celles des internes, mais aussi celles des patients.
En France, le grand épuisement des internes en médecine, un grand reportage de Claire Leys, réalisation Laurie Plisson.